Merci d'écouter RFI. Il est minuit 30 ici à Paris, 23h30 à Kinshasa, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Place à l'actualité africaine sur RFI et c'est avec vous Zéphirin Kouadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Simon Bourg-Tambour. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette édition encore largement consacrée à la mort du pape. Un décès qui suscite une vague de réactions à travers le monde, notamment en Afrique, un continent où il s'était rendu à 5 reprises dans une dizaine de pays. Son dernier déplacement sur le continent l'avait d'ailleurs conduit en République démocratique du Congo, où il avait mobilisé les foules à Kinshasa, la capitale, puis à Djouba, au Soudan du Sud, où ses messages avaient suscité les espoirs d'une avancée vers la paix. L'Afrique, un continent que le souverain pontife évoquait régulièrement et pour lequel il avait une attention particulière. Lors de ses visites en Afrique, il a abordé les thèmes qui ont marqué son pontificat. Le gouvernement congolais durcit le ton dans le reste de l'actualité contre l'ancien président Joseph Kabila et ses proches. Après l'annonce de la suspension des activités de son parti, des procédures sont en cours pour aller plus loin. Les enseignants du Cameroun annoncent, eux, une nouvelle grève de 4 jours à compter de ce mardi à l'appel de la COREC, le collectif des organisations des enseignants du Cameroun. Au Soudan, Niala, capitale du Darfour du Sud et deuxième ville la plus peuplée du pays, est dans le viseur de l'armée soudanaise qui se prépare à la reprendre pour desserrer l'étau autour d'El Fasher. Émotion et désarroi des catholiques du monde entier après l'annonce de la mort du pape François. Il avait 88 ans, originaire d'Argentine. Il avait pris la tête de l'Église catholique en 2013, premier pape issu d'un pays dit du Sud. Il s'était illustré par son réformisme, parfois critiqué avec virulence, mais aussi par son écoute des plus pauvres et des marginalisés. Pour rappel, le 31 janvier 2023, en visite en République démocratique du Congo, il interpelle la communauté internationale contre le colonialisme économique qui frappe, selon lui, le continent africain. C'est l'un des discours qui ont marqué le pontificat de François. Ce jour-là, dans le jardin du Palais de la Nation à Kinshasa, devant les autorités, la société civile et les diplomates, il a alors ces mots très forts qui provoquent de nombreux applaudissements. « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo ». On écoute un extrait de ce discours de janvier
2023.
Il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. Il y a cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures et de tant de personnes, l'Afrique doit être exploitée. Cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser.
Les mots du pape François en janvier 2023 à Kinshasa. Des mots qui avaient marqué les Congolais, qui expriment aujourd'hui leur émotion et leur tristesse à Kinshasa. Reportage à la cathédrale Notre-Dame du Congo, Pauline Azidi.
Il est midi et les cloches sonnent dans les différentes églises du pays, comme à la cathédrale Notre-Dame du Congo, en plein centre-ville de Kinshasa. Pour le recteur, l'abbé Camille Essika, c'est un sentiment de tristesse qui domine en ce lundi de Pâques.
Le pape François est venu il n'y a pas très longtemps, il y a presque 2 ans, il est venu ici au Congo. On est resté très attaché à lui et sa perte, ça nous donne vraiment de la tristesse.
Qu'est-ce que vous gardez de lui? Qu'est-ce que vous gardez de cette rencontre?
Sa proximité avec les gens, son ouverture, son souci de vraiment être proche des gens.
Parmi les fidèles, Divine vient tout juste d'apprendre la nouvelle.
C'est mon collègue qui m'a informé que le pape est décédé. C'est pour cela que je suis venu pour vérifier, donc je vis c'est exact. Puis en son âme, c'est ma pape François. C'est notre Père, mais qui est le Seigneur. Qu'il le garde, que le Seigneur le protège.
Randall est lui aussi venu à la cathédrale prier pour un pape qui l'a beaucoup marqué.
C'est le pape qui était tout proche de la population. C'est-à-dire, c'est un pape qui incarnait vraiment l'espoir d'un peuple, l'espoir de toutes les populations du monde. C'est-à-dire, il était là, tout proche de peuples vulnérables, et un peu ça, voilà.
Dans les églises de Kinshasa et du reste du pays, les célébrations festives ont été annulées, et les prières sont désormais tournées vers le pape François. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et autre réaction, cette fois en Centrafrique, celle de l'archevêque de Bangui. Pour Dieudonné Nzapalanga, le fait que la mort du pape survienne au lendemain des fêtes de Pâques est tout simplement un signe du destin.
C'est un message aussi que nous devons accueillir dans la foi. Hier, ceux qui ont aperçu à la télé ont vu le Saint-Père qui a fait un petit coucou, pour ne pas dire un au revoir à ceux qui étaient là. Et à Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection. Parce que Pâques, c'est la grande fête qui explique toutes les autres fêtes. C'est un signe que la foi en la résurrection n'est pas une utopie, une réalité, puisque lui-même a annoncé cette résurrection et voici qu'il quitte à ce moment-là où on célèbre la résurrection, la vie, pour entrer dans cette vie éternelle.
L'archevêque de Bangui, Dieudonné Nzapalanga, au micro de Christophe Boisbouvier. Entretien à retrouver en intégralité ce mardi matin à 5h47, temps universel. En restant en Centrafrique, où 10 ans après, de nombreuses personnes se souviennent encore des moments forts de la visite du pape François à Bangui. Pour rappel, le coup d'état de la coalition Séléka contre l'ancien président François Bozizé en mars 2013 avait plongé le pays dans une crise sans précédent. Mais le passage du souverain pontife en novembre 2015 a suscité un immense espoir de paix et de réconciliation dans ce pays meurtri et divisé par des violences interreligieuses. Notre correspondant Rolf Steve Domialeux a rencontré des fidèles qui se souviennent de lui comme un porteur de messages de paix et de réconciliation.
Près de milliers de personnes sont réunies à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Bangui. Certains sont à l'intérieur de l'église, d'autres ont pris place sur des bancs et des chaises installées dans la vaste concession de la cathédrale. Devant la grotte de prière qui se trouve ici, plusieurs centaines de bougies sont allumées. Chacun élève à sa manière des prières pour se souvenir du souverain pontife. Tout le monde a en tête la visite du pape François en novembre 2015 à Bangui. Le pays était déchiré par des violences interreligieuses entre miliciens Séléka, majoritairement musulmans, et Anti-Balaka, majorité chrétien. C'est dans ce contexte très tendu que le pape François a effectué cette visite à Bangui en novembre 2015, un acte de bravoure pour les Centrafricains. D'abord, il a visité le site des déplacés de l'aéroport international de Bangui, le plus grand de la capitale où sont assis plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il s'est même rendu au PK5, un quartier majoritairement musulman. Au temps fort de la crise, aucun Centrafricain non musulman ne pouvait pénétrer dans ce secteur. Mais le pape François s'y est rendu, drainant derrière lui des milliers de chrétiens jusqu'à la mosquée centrale, où il a lancé un puissant message de réconciliation et du vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est donc ce message que tout le monde garde en mémoire. Les fidèles ont l'espoir de tourner définitivement les cycles de violence qui ont plongé le pays dans le chaos. Rolf Steve Domialeux, Bangui, RFI.
L'Afrique, un continent que le souverain pontife évoquait régulièrement et pour lequel il avait une attention particulière. Au cours de son pontificat, il s'y est rendu à 5 reprises. Il y a abordé les thèmes qui ont marqué son pontificat. Appel récurrent à la paix, défense des plus pauvres, accueil des migrants, mais surtout, Clotilde Hazard, la volonté de favoriser le dialogue interreligieux.
Lors de sa première visite en Afrique en 2015, au Kenya et en Centrafrique, il déclare que les chrétiens et les musulmans sont frères et doivent se comporter comme tels. Il signe en 2019 un traité avec le grand imam de la plus vieille université islamique au Caire pour poser le socle du dialogue entre chrétiens et musulmans et réaffirmer qu'on ne peut utiliser le nom de Dieu pour faire la guerre. Le pape n'a eu de cesse de dénoncer les conflits et la pauvreté. Il qualifiait la Méditerranée de cimetière et dénonçait le rejet des migrants en Occident comme un péché grave, invoquant un devoir d'humanité et de civilisation. La déclaration en 2023 qui permet aux prêtres de bénir les couples homosexuels provoque cependant un tollé et les églises africaines sont finalement autorisées à ne pas l'appliquer. Cela n'a pas éclipsé l'engagement du pape pour la paix en Afrique. Jusqu'à la veille de sa mort, le jour de Pâques, le chef de l'église catholique avait prié pour les populations victimes des conflits sur le continent.
Clotilde Hazard, aujourd'hui se pose aussi et déjà la question de après François, quelle sera l'identité du nouveau pape? Peut-il être africain? Beaucoup sur le continent l'espèrent. Que devra faire le nouveau pape de l'héritage de son prédécesseur sur certains sujets jugés un peu trop progressistes? Élément de réponse à travers ce reportage de Polycarpe Samba à Yaoundé.
Sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, la question d'un pape africain après le décès du pape François s'est tout de suite invitée au débat et l'idée à ses partisans.
Si on peut avoir un pape noir, ça sera une très grande fierté pour nous.
Naturellement, ce serait un honneur et un plaisir d'avoir aussi un pape africain, puisqu'on n'en a jamais eu.
Pour l'abbé Aurélien Béat, il n'y a pas à focaliser sur la race, le message de l'Église étant universel.
Notre souhait, c'est d'avoir un Saint-Père, un pontife qui relie et qui continue la mission d'un apostolique ici dans le monde et qu'il rassemble ses brebis, qu'ils soient blancs ou noirs. Pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir d'être un pape pasteur selon le cœur de Dieu.
Sur les idées progressistes que défendait le pape François, à l'exemple de la bénédiction des couples homosexuels, certains des fidèles suggèrent une mauvaise compréhension de la position du pape et postulent sur le principe du dynamisme de l'Église qu'il ne peut y avoir de retour en arrière.
Nous n'avons pas bien compris le pape. Le pape a voulu dire que chaque personne d'entre nous a une valeur devant Dieu, quelle qu'en soit sa faiblesse.
L'Église d'Afrique a été claire là-dessus. Et le pape a été clair dans sa prise de position. Il a dit, il faut ouvrir une porte de conversion à ceux qui font un pas vers l'Église. Nous disons, l'Église est dynamique, l'Église est en marche. Je pense que ce qui a déjà été traité par le passé ne peut que continuer.
Ce qui est certain, la fumée blanche sera particulièrement scrutée ici dans les prochains jours. Pour Polycarpe Somba Yaoundé, RFI.
Et après le Cameroun, direction la Côte d'Ivoire où l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, a été récemment créé cardinal selon la formule consacrée. Cela veut dire surtout qu'il va participer au conclave pour élire le prochain pape. Alexandra Brangeon lui a donc demandé ce qu'il retenait du pape François.
La première réaction, c'est vraiment la consternation. Vous savez, le pape, il était très malade. Nous le savions tous. Nous prions pour que le Seigneur le remette. Et nous espérions que même si en sortant de maladie, il ne reprenait pas une activité intense, mais qu'il soit parmi nous à gérer le quotidien. Et voilà que au lendemain de Pâques, alors que le dimanche, il avait donné la bénédiction au peuple, aux croyants et au monde entier, ou bien à Torbi, voilà que le lendemain, il part vraiment nous laissant dans une consternation et dans une tristesse.
Le destin a voulu qu'il décède le lendemain des fêtes de Pâques.
Oui, c'est ça, faire le passage avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Pâques, c'est ça, c'est le passage. Le Seigneur Jésus-Christ qui passe de ce monde à son Père et le pape qui est au lendemain de Pâques nous quitte après avoir fait la bénédiction qui aujourd'hui est regardée comme un adieu qu'il faisait.
Qu'est-ce que vous retenez de lui?
Alors, je retiens du pape François un pape de périphérie. Vous voyez, quand il a commencé son ministère comme pape, il a invité l'Église à être une Église en sortie. Aller vers la périphérie de l'Église, la périphérie du monde, là où se trouvent ceux qui sont délaissés, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont marginalisés, les petits. C'est vraiment le pape de la périphérie. Et nous rappelons la prise de position assez claire par rapport aux migrants et toutes les démarches et les actions qu'il a menées en faveur de ces pauvres-là. Et puis, je retiens en dernier ressort ce qui, je pourrais dire, prend en compte tout cela. C'est la grande démarche pour une Église synodale qui nous a permis de vivre, qui montre que c'est le pape qui est au service de la communion dans l'Église. Communion entre le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses, le peuple chrétien. Vraiment, c'est le pape de la communion. Cela, je pense que c'est un héritage qu'il nous laisse.
Alors, vous disiez un pape de la périphérie. En effet, le pape François était un réformiste au franc-parler qui a été confronté à une opposition en interne. Est-ce que l'on peut craindre une offensive conservatrice lors du prochain conclave?
Je ne saurais le dire, mais je pense plutôt que la ligne du pape, c'est la ligne de l'Évangile. Hein. Et je pense que nous devons être tournés vers l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ. Il a été, j'allais dire, en son temps aussi, de cette trempe. Hein. Son attitude vis-à-vis des petites gens, des personnes qui étaient abandonnées, qui étaient rejetées de la société, ça l'a marginalisé aussi, le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est l'Évangile. Et donc, je pense que le pape nous a donné un exemple à vivre dans l'Église. Et je ne crois pas que la réaction soit une réaction inverse pour une sorte de conservatisme dans l'Église. Non, l'Église, c'est l'Évangile. Et je prie pour qu'il en soit ainsi.
Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, l'archevêque d'Abidjan, interrogé par Alexandra Brangeon. Et puis toujours à Abidjan, c'est à la sortie de la messe de 8h ce lundi matin que les fidèles ont appris la nouvelle. Des fidèles qui retiennent l'esprit d'ouverture du défunt.
Nous sortons de la messe du lundi de Pâques, alors ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il part dans la gloire, il est parti en paix et auprès de son Seigneur.
Il était rassembleur en fait, donc sans distinction de sexe, de race, et c'était quelqu'un de rassembleur.
Pour moi, c'est un pape d'ouverture qui a voulu que la volonté de chacun puisse s'exprimer, que tu sois d'orientation sexuelle de même que les autres ou pas. Il accepte tout le monde et c'est ça qui m'a le plus marqué.
De la tristesse, mais en même temps de la reconnaissance. Le pape François était un grand défenseur de la famille et il a été constant. Il y avait une rencontre en Grande-Bretagne, les grands groupes anti-famille qui l'attendaient, qui marchaient. Mais il a maintenu son discours, un discours très ferme pour la famille.
C'est un grand choc pour nous. Il est le père de l'Église catholique. Et il crée un vide, le temps de retrouver un autre.
Voilà, un témoignage recueilli à Abidjan par Binta Diagne. Et avant de refermer ce dossier sur la disparition du pape, je rappelle que depuis l'annonce du décès de François, c'est une avalanche de réactions qui déferle du continent africain. Rappelons également qu'en 12 années de pontificat, le souverain pontife a effectué 5 déplacements sur le continent où il a visité 10 pays. Parmi les réactions, Lisa Fabian, on retiendra aussi l'hommage appuyé de l'Union africaine qui salue l'engagement courageux du pape sur le continent.
L'Union africaine rend hommage à un avocat inébranlable de la paix. C'est une figure spirituelle majeure qui s'est éteinte selon le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui estime que le pape François aura incarné une espérance vivante pour des millions de croyants et d'hommes de bonne volonté. Dans un message chargé d'une grande émotion, le président togolais Fornia Simbé a lui évoqué la mémoire d'un artisan infatigable de paix, de justice et de fraternité. Pour le congolais Félix Tshisekedi, dirigeant du plus grand pays catholique d'Afrique, le pape François a marqué le monde par sa simplicité, sa proximité avec les plus vulnérables et son appel incessant à la fraternité entre les peuples. Son message de foi, de paix et d'humilité restera une source d'inspiration, a réagi le président gabonais Oligui Nguema, qui est un fervent catholique. Sa mort fait perdre au monde la voie la plus incisive pour la justice et l'action contre le changement climatique, a déploré le président Bola Tinubu du Nigeria, où vivent plus de 18 millions de catholique.
Lisa Fabian.
Afrique Soir sur RFI.
Il est 23h47 à Kinshasa. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement congolais durcit le ton contre l'ancien président Joseph Kabila et ses proches. Après l'annonce de la suspension des activités de son parti, le PPRD, sur toute l'étendue du territoire, plusieurs arrêtés ministériels ont été pris, selon nos informations. Des procédures sont en cours pour aller plus loin, avec des conséquences sur les biens, les comptes bancaires et la liberté de circulation de plusieurs personnalités politiques. Les précisions de Patien Ligaudy.
Des arrêtés ministériels ont été signés par le ministre de l'Intérieur pour formaliser la suspension des activités du PPRD sur toute l'étendue du territoire national. Selon les sources des RFI, d'autres partis politiques pourraient également être concernés. Il s'agit dans un premier temps d'une mesure préventive, renseigne-t-on du côté des autorités congolaises. Le parquet compétent devra se prononcer dans un délai de 15 jours sur chacun des cas, disent les mêmes sources. Kabila est astreint à des obligations de par son statut d'ancien président. Nous sommes l'État, nous avons nos services, il est sorti du pays clandestinement et est rentré clandestinement, affirme une source gouvernementale. Et un haut responsable politico-sécuritaire congolais va plus loin. À part Joseph Kabila, nous savons qu'il y a d'autres acteurs politiques connus qui ont des mouvements de Kigali et de Goma. Du côté du ministre de la Justice, on annonce que des procès seront lancés dans les prochains jours. Tous les biens identifiés, avoirs et comptes bancaires seront gelés. Des personnes ont été identifiées. Ils ne pourront pas quitter jusque-là le pays. Il y aura des procès, à déclarer à RFI le ministre de la Justice, Constant Mutamba.
En précision signée, Patient Ligaudy. Et puis les enseignants du Cameroun annoncent une nouvelle grève. Elle commence ce mardi et devrait durer jusqu'au vendredi 25 avril sur l'ensemble du territoire. 4 jours de grève, appelés écoles mortes dans tous les établissements publics et privés. Elle est organisée par plus d'une dizaine de syndicats réunis au sein de la COREC, le collectif des organisations des enseignants du Cameroun. Correspondance à Yaoundé, Richard Onanena.
Les syndicats ont 6 principales revendications. Parmi elles, la tenue d'un forum national de l'éducation pour repenser l'école et la revalorisation du statut spécial de l'enseignant, afin qu'ils puissent se consacrer uniquement à leur métier. Ils demandent aussi une convention collective spécifique, notamment pour les enseignants du privé. Le préavis des grèves avait été déposé fin mars pour les établissements du public et du privé. Le gouvernement a engagé des discussions et plusieurs rencontres ont eu lieu dans différentes administrations. L'une d'elles s'est tenue le 17 avril dernier au ministère de la fonction publique pour revoir le statut de tous les enseignants. Cette grève intervient au moment où les délégués régionaux ont annoncé la tenue des examens blancs. Les enseignants attendent désormais, et je cite, « un geste fort du gouvernement ». Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Niala, capitale du Darfour du Sud et deuxième ville la plus peuplée du Soudan après Khartoum, la capitale, est dans le viseur de l'armée soudanaise qui se prépare à la reprendre pour desserrer les taux autour d'El Fasher. Une importante brigade militaire conduite par le général Hossein Jaoudat prépare une offensive sur la ville. Sous le contrôle des paramilitaires des forces de soutien rapide depuis octobre 2023, cette ville clé est située au carrefour des échanges commerciaux avec la Centrafrique et le Soudan du Sud est devenue la principale source d'armement des FSR. Elle est en passe d'être la base de leur gouvernement parallèle, ce que l'armée cherche à éviter face au risque de partition du Soudan. Les précisions d'Ouda Ibrahim.
Tout à Niala indique que la situation se dirige vers une confrontation entre l'armée et les paramilitaires. Selon des informations concordantes venant de l'intérieur de la ville, les forces de soutien rapide sont en train de fortifier leur position. Elles creusent des tranchées et posent des mines tout autour de Niala, surtout autour de l'aéroport. Les habitants se montrent inquiets et s'attendent au pire. Les renseignements militaires soudanais indiquent que l'aéroport de Niala est largement utilisé pour recevoir des armes et de mercenaires, mais aussi pour évacuer des blessés haut gradés des FSR vers Dubaï. Soudan Tribune, se basant sur des fuites du prochain rapport du groupe des experts de l'ONU, accuse Abu Dhabi d'avoir doté les FSR d'un système de défense anti-aérien moderne. Il s'agit, selon des experts militaires, du FK-2000 chinois. Information que des images satellites récentes confirment, le système est effectivement déployé près de l'aéroport de Niala, le plus important du Darfour. D'autres armes sophistiquées apparaissent sur ces images satellites, des radars puissants et un système de brouillage du signal des drones.
Précision signée Ouda Ibrahim. La CDAO célèbre à compter de ce mardi ses 50 ans, un demi-siècle. Les chefs d'État des 12 pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sont donc attendus à Accra, l'occasion de faire le point sur la sortie des 3 États de l'AES il y a près d'un an. Rappelons qu'à l'origine, la vocation de l'organisation régionale était avant tout économique. Alors sur ce terrain, qu'a-t-elle véritablement réussi? Il y a eu certes des avancées, mais les objectifs, notamment un marché commun ouest-africain, n'ont pas tous été atteints, Alexis Bédu.
Parmi les succès, on peut citer la libre circulation des personnes et des biens avec la carte d'identité CDAO. Pas besoin de carte de séjour pour accéder à tous les emplois hors emploi public dans les pays de la région. C'est la grande réussite selon le chercheur sénégalais Papi Brahima Kane, qui cite également la taxe communautaire permettant une harmonisation des droits de douane. Plus mitigé, les projets d'infrastructure avec des corridors de transport, seul celui entre Abidjan et Lagos est une réalité, les autres réseaux routiers ne sont pas à la hauteur des promesses. On en arrive aux échecs, le commerce intra-régional stagne à moins de 15% du total des exportations, chaque pays continue de mener sa barque seul, les économies se sont révélées peu complémentaires et la monnaie unique, l'éco, a été plusieurs fois annoncée mais toujours reportée. Alors, les disparités de ressources entre les pays, le manque de leadership, le Nigeria qui devait être la locomotive de la CDAO reste embourbé dans des problèmes politiques, économiques et sécuritaires, les crises à répétition, dont la dernière en date reste la sortie du Mali, du Niger et du Burkina Faso, voilà un enchevêtrement qui a empêché la CDAO d'atteindre ses ambitions de 1975.
Alexis Bédu, RFI, 22h54 en temps universel. On parmi les principaux thèmes qui seront abordés avec les autorités de Madagascar lors de la visite du président Macron, l'énergie. Le secteur est tellement sinistré, avec des délestages de plus de 8 heures par jour, que le problème est devenu, nous dit-on, une menace politique pour le pouvoir malgache. Les défis, en particulier de gouvernance de la compagnie publique d'Irama, sont énormes, y compris pour relancer les projets de barrages hydrauliques. Un dossier signé Claire Fage.
À Madagascar, il n'y a même plus assez de courant pour distribuer l'eau dans les bornes fontaines urbaines. Les manifestations se multiplient devant le siège de la compagnie publique d'électricité, la Djirama, une société qui absorbe 10% des revenus de l'État tant elle est mal gérée, observe Ketakanji Narafic, directrice exécutive de Publier ce que vous payez.
Les marchés publics et les contrats de production d'électricité sont souvent attribués via des procédures opaques. Je pense notamment au contrat Léonard conclu entre la Djirama et les loueurs de groupes électrogènes qui font fonctionner la plupart de ces installations et qui les facturent souvent à des prix exorbitants. Les fournisseurs de combustible, tout comme les loueurs de groupes, ont tout intérêt à ce que la crise perdure. Il y a aussi la falsification des paramètres de facturation de la Djirama, manque à gagner pour la compagnie elle-même.
Les barrages, même s'ils sont plus souvent à sec une partie de l'année, restent la piste principale pour augmenter l'accès des Malgaches au réseau. Il est un des plus faibles au monde. Mais en 20 ans, aucun projet majeur n'a pu voir le jour, souligne Ketakanji Narafic.
En 2004, ces barrages-là, notamment Voulbé et Saouf, étaient déjà inscrits dans les soi-disant priorités du gouvernement. Les raisons évoquées sont le retard dû à des problèmes de financement, de coordination et de gouvernance. Et je pense que c'est ce dernier point surtout qui prédomine, le manque de transparence dans les appels d'offres.
Le président Macron pourrait annoncer la relance du projet de barrage de Voulbé par la compagnie française EDF grâce à un prêt de l'Agence française de développement. Mais pour qu'il soit viable, il faudra que la Djirama soit en mesure de payer cette électricité, explique Lou Varinel. Elle représente la France dans le réseau francophone des régulateurs de l'énergie.
Quand vous financez un système de production, donc à savoir une centrale hydro ou une centrale photovoltaïque par exemple, vous allez avoir un bailleur, mais en fait il y a un modèle économique qu'il faut répondre. Et là, Madagascar ne trouve pas encore le dessin, j'allais dire, financier et économique pour expliquer que, en fait, il y aura une rentabilité et que cette coopération ne sera pas que un projet qui va fonctionner pendant 5-6 ans et puis après qui va plus marcher parce que, justement, manque d'entretien, parce que les Malgaches n'auront pas su faire.
La réforme de la Djirama est donc un préalable au succès des projets énergétiques malgaches et elle est exigée par le Fonds monétaire international au lendemain d'une mission dans la Grande Île.
Dossier signé Claire Fage. Et on termine en musique avec King Sunny Ade and his African Beats. Le morceau s'appelle Synchro Feelings Ilako. Voilà. Voilà, c'est donc au Nigeria avec King Sunny ADN's African Beats que s'achève cette dernière édition d'Afrique Soir, réalisée par Raphaël Lazizi. Merci de votre attention. Dans moins d'une minute maintenant, un nouveau journal sur la Radio Mondiale.
Journal en français facile.
Bonjour, je m'appelle Priyanka et je suis indienne. J'écoute le français facile depuis un an. Les mots utilisés sont simples et très utiles pour la vie quotidienne. En tant que débutante, je l'ai trouvé génial car les podcasts proposent différents types de sujets intéressants décrits en français simple.
Le journal en français facile, c'est du lundi au vendredi à 16h TU sur RFI et quand vous le voulez sur françaisfacile.rfi.fr.